c'est assez sain de se rendre compte des difficultés. Il ne faut pas penser qu'au premier problème, les choses sont finies.
Le secret, c'est de conserver sa part de liberté.
Quand vous vivez tout le temps dans l'avenir, vous passez en grande partie à côté de la vraie vie.
La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 3 de Secrets de dirigeants. Ilham Kadri est une dirigeante atypique. Née au Maroc, elle a été élevée par une grand-mère qui faisait des ménages, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui lui a pourtant donné tout ce qu'il fallait pour réussir. La confiance en elle et la conviction que rien n'est impossible. Et en effet, après de longues études, elle est devenue docteur en chimie moléculaire, a travaillé sur 4 continents, dans l'automobile, le dessalement d'eau de mer, l'aéronautique et l'hygiène. Elle vit d'ailleurs aux États-Unis lorsqu'en 2019, un chasseur de tête lui fait une proposition qu'elle n'aurait jamais imaginée, prendre la tête du chimiste belge Solvay, et 4 ans après, elle scinde l'entreprise en deux.
C'est l'actualité du jour en Belgique. Le groupe Solvay est désormais divisé en 2 entités distinctes. D'un côté, les activités traditionnelles qui restent dans Solvay et de l'autre, les matériaux innovants baptisés Syensqo, dirigés par Ilham Kadri.
On s'est rendu compte à l'été 2021 qu'en fait, on était maintenant assis sur... On avait 2 types d'activités qui ont rapidement émergé au sein de Solvay. Les unes, comme vous avez dit, fabriquant des produits plutôt essentiels, technologies comme le carbonate de soude, etc. et d'autres activités avec des molécules et des solutions de haute technologie. Et de fait, après avoir fait le premier chapitre de cette transformation qui était financière et non financière, on peut peut-être en revenir, on s'est rendu compte que les besoins et les aspirations de ces 2 types d'activités étaient divergents et cela se manifestait au quotidien. Et donc, la scission avec le maintien d'un actionnariat stable nous est apparue comme la solution idéale. Dans le monde des affaires, il y a 2 types de séparation, celle qui est voulue et celle que l'on subit. Alors, elle peut être subie et précipitée pour diverses raisons. Il peut y avoir des OPA hostiles, une campagne d'activistes qui retourne aux actionnaires contre vous, une injonction de la part d'autorités, antitrust et autres. Et en fait, dans notre cas, et c'est ça qu'il faut que... Moi, j'ai trouvé ce voyage formidable. J'en suis très heureux pour nos actionnaires, pour nos employés, pour tous nos partenaires. Il s'agit d'une scission que nous avons voulu pour des raisons, comme je l'ai décrit, stratégiques, mais surtout avec cette conviction que les 2 entités seraient plus prospères de manière autonome. Mais vous savez, on n'a pas d'ego de la taille de l'entreprise. Ce qu'on veut, c'est que les entreprises soient autonomes, qu'elles aient un vrai... plan stratégique, un vrai focus, et avec le focus et les priorités d'allocation des ressources, ben elles vont aller plus loin et elles vont être plus fortes.
Pour cette opération, vous avez touché un bonus de 12 millions d'euros qui a beaucoup fait réagir en Belgique. Est-ce que vous comprenez qu'un bonus de ce montant-là, ça puisse créer de l'émoi ?
Ah, tout à fait. Je sais que les questions de rémunération sont toujours sensibles. Il se trouve que ce bonus m'a été accordé pour récompenser ce travail de transformation de l'entreprise. À l'amorce de cette scission, en fait, bon, ça a été proposé par le conseil d'administration, mais ça a été soumis au vote de l'Assemblée générale. Donc, c'est pas une décision arbitraire. Je comprends tout à fait que c'est un sujet qui reste sensible quand on parle de rémunération, et c'est pas une décision qui m'est propre.
Est-ce que vous vous êtes demandé si vous alliez l'accepter ou le réduire?
Je pense que quand on vous donne un bonus par rapport à la valeur créée, qu'on n'en parle pas beaucoup, d'après le Vléric, le Business School, on a créé 2 milliards d'euros de valeur aux actionnaires dans les dernières années. Donc voilà, il faut mettre les choses dans le contexte. Et encore une fois, je remercie le conseil d'administration et le vote de l'Assemblée générale de nos actionnaires pour la méritocratie et d'avoir récompensé ce travail fait.
On va revenir un peu en arrière. En mars 2019, vous vivez alors en Caroline du Nord. Vous dirigez une entreprise spécialisée dans le nettoyage dont vous assurez le redressement. On vous propose de venir en Europe chez Solvay. Qu'est-ce qui vous pousse à accepter ce poste qui est très loin de ce que vous avez fait jusqu'à présent ?
Ouais, c'est vrai. C'était vraiment une proposition qui venait, comme on dit en anglais, de nulle part. Donc moi, j'avais transformé une société d'hygiène et de propreté. J'avais passé 5 ans. Je l'avais même vendue. Il y avait eu une cession de la part de Stilder, un private equity. J'étais effectivement déjà PDG aux États-Unis de cette société. Et voilà, et Solvay est venu avec le président du conseil, Nicolas Boël, hein, qui a pris sa retraite et que je salue très très fort. Et il est venu me voir pour me demander de voilà de qu'on parle de Solvay. Alors Solvay, moi je connaissais Solvay, je connaissais cette histoire parce que je suis une chimiste. Donc on apprend sur le banc de l'école le procédé du carbonate de soude, hein, qui a 160 ans. Et j'ai été conquise par non seulement l'histoire, l'héritage humain de cette société. On n'a pas beaucoup dans le monde qui peuvent dire qu'ils ont passé 160 ans à travers des guerres, des crises économiques et des pandémies, etc. Et j'ai vu que le défi était de taille. Cette société était appelée la Belle Endormie. Mais j'avais un héritage fabuleux, une histoire d'innovation, des talents incroyables. Et ce qui m'a attirée, c'est vraiment la complexité de ce challenge, de rêver grand, de ramener de l'ambition, de rendre cette entreprise fière et consciente de son rôle et son implication pour changer le monde. Quand je suis arrivée en 2019 en Europe, chez Solvay, on faisait partie du problème. C'était le problème de l'industrie chimique. On m'a dit, voilà, l'industrie chimique est pollueuse. Et moi, je pensais, et je l'ai dit, et on s'est battu, et je pense que de plus en plus, on voit que l'industrie chimique, elle fait partie de la solution. Je suis très fière d'avoir transformé de l'intérieur cette entreprise chimique vieille de près de 160 ans tout en conservant son merveilleux héritage. Et grâce à cette transformation, nous avons aujourd'hui deux belles entreprises plus fortes et plus performantes sur tous les plans.
Alors vous le disiez, la chimie reste une industrie très polluante. On dit que c'est aujourd'hui 6% des émissions mondiales. C'est un sujet qui concerne notamment les jeunes adultes. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre les jeunes et en particulier les jeunes femmes de choisir des études scientifiques et plus spécifiquement dans la chimie?
Je fais un appel aux jeunes de venir d'ailleurs dans les métiers scientifiques, que ce soit technologie, ingénieur, mathématiques ou digital, bien sûr. Et on a besoin de nouvelles façons de produire, d'innover, où il y a plus de circularité. Le digital et le Gen AI va nous permettre de repenser notre industrie. Je l'appelle l'industrie chimique la mère de toutes les industries. Nous sommes virtuellement dans tout ce que vous faites. Une voiture sur deux, électrique ou hybride, contient des produits Syensqo. Nous sommes dans vos shampoings bio. Si vous avez utilisé ce matin du guar sous la douche, c'est nous. Donc voilà, nous avons pour ambition de réduire cette empreinte environnementale. Mais elle va venir avec des technologies nouvelles, que ce soit les batteries, nous sommes dans les batteries, que ce soit l'hydrogène vert qui est un petit peu le nouveau pétrole, que ce soit l'allègement de la mobilité, que ce soit la voiture, l'avion ou bien votre vélo électrique. S'il y a plus de circularité, c'est tant mieux pour le monde. Et nous avons besoin de jeunes qui vont nous remplacer et qui vont amener cette histoire beaucoup plus loin. Moi, je pense que dans 10 ans, le métier de la chimie va être révolutionné. D'ailleurs, il est en train de se mélanger à la biochimie et la biologie. Et je trouve formidable que les jeunes d'aujourd'hui, dans les laboratoires de chimie, j'aurais bien aimé être jeune et retourner dans mon laboratoire pour inventer des molécules et une chimie qui est plus circulaire.
Dans les différents postes que vous avez occupés, vous avez toujours traversé beaucoup de crises, les attentats du 11 septembre, la crise financière de 2008, Ebola, le SRAS. Vous avez aussi évidemment connu la crise du Covid. Qu'est-ce que ces différentes crises vous ont appris sur vous et sur les gens avec qui vous travaillez? Qu'est-ce qu'il faut dire aux équipes dans ces moments-là?
Il faut être résilient, il faut revenir... L'adversité, moi, m'a poussée à grandir et à m'élever. Ça part un petit peu de cette comment j'ai grandi avec ma propre grand-mère dans un quartier populaire où l'accès, encore une fois, à l'eau potable et propre était un défi déjà. Et l'accès à l'hygiène et la propreté était un défi. Mais c'est grâce à l'éducation, c'est grâce à ma passion que j'ai trouvée très, très vite dans les sciences et dans les technologies qui m'a permis de continuer d'avancer. Mais la réussite n'est pas garantie, hein. Il faut toujours se battre. Être dirigeant, ce que ça m'a appris, c'est de faire preuve d'empathie et de créer ce lien humain et investir dans l'humain. L'empathie permet aussi un style de management, je dirais, plus inclusif, qui fait preuve de plus de patience, qui se fie à l'intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence intellectuelle, c'est devenu une commodité, on peut dire ça. Donc, diriger avec son cœur, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris dans les bancs d'école, hein, lancer un stéréotype, on est fort, on a toutes les réponses à tout. Diriger avec son cœur, cela veut dire en bon père de famille ou bonne mère de famille, on est capable de prendre des bonnes décisions, d'être plus proche de ses équipes en temps de crise. Et les crises, voilà, on est mis à nu un peu. C'est pas toujours facile, il faut savoir pourquoi on prend des décisions qui peuvent être très, très dures, compliquées, comme faire des restructurations ou bien faire avancer les choses de telle façon. Donc voilà, il faut être authentique, il faut dialoguer encore plus dans les temps de crise. Et il faut pas gaspiller des crises. Churchill disait ça, ne pas gaspiller une bonne crise. Et je pense que c'est ce que Solvay a fait durant toutes les crises successives, du 737 MAX en 2019, au Covid, à ses variants, l'inflation, cette crise ukrainienne et cette guerre, on s'y attendait pas et on y fait face et l'impact, toute la façon de faire le business aujourd'hui en Europe, dans un monde qui est très polarisé entre les différentes géographies chinoises, américaines, européennes, et où notre industrie chimique voit aller vers la neutralité carbone, mais en même temps, en devenant encore plus profitable. Donc voilà, ce sont des défis qui, à la fin, sont humains.
Vous êtes une femme, vous avez une grande expérience à l'international. C'est des profils qui sont recherchés pour les conseils d'administration. Vous, vous êtes au conseil d'administration de L'Oréal. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que manager de voir fonctionner une autre entreprise, un autre conseil ?
Je suis curieuse d'aller voir d'autres technologies, d'autres industries. D'ailleurs, dans ma carrière, j'ai travaillé dans beaucoup d'industries. Et la chimie permet ça. Je peux passer de l'aéronautique au shampoing. Ça rend humble hein, quand on est dans un conseil comme L'Oréal. Voilà, on voit des belles choses et j'espère pouvoir amener avec moi et copier des belles choses. Quand on voyage dans d'autres régions dans le monde, moi je suis administratrice aux États-Unis, ben on apprend d'autres façons de gouverner. La gouvernance est importante et la façon de gouverner à l'anglo-saxonne est très différente de la française ou de l'européenne. Donc c'est bien d'amener ce qu'on appelle les best practices, donc les meilleures d'autres façons qui sont bonnes de gérer une organisation, de continuer à lever la barre. À amener des façons de gérer l'humain, de gérer par exemple l'intelligence artificielle, de l'adopter et de l'adapter à son business model et moins d'impacter. Donc voilà, vous amenez humblement votre savoir-faire, votre expérience et chaque administrateur a une expérience unique. Moi, il se trouve que voilà, j'ai travaillé dans 4 continents, j'ai pas mal roulé ma bosse. Je sais ce que c'est de vivre en Arabie Saoudite. J'ai fait un business là-bas, j'ai investi, j'ai travaillé au Japon, j'ai travaillé aux États-Unis avant de revenir en Europe. Donc j'amène humblement cette expérience globale, plus universelle, humaine, poser les bonnes questions, voilà, aider le management. Et surtout, voilà, s'inspirer. Moi, ma grand-mère m'a donné le nom Ilham, qui veut dire inspiration. Et en fait, elle rêvait pour moi d'être toujours inspirée au cours de ma carrière. Et c'est ce que j'ai dans mes conseils d'administration. Et il faut aussi s'amuser, il faut avoir du fun, une dose de fun, et d'autodérision d'ailleurs, pour avancer sereinement est aussi important.
Vous dites que l'encouragement est le socle le plus puissant, que c'est ce qui vous a donné cette force et cette énergie, cette conviction que rien n'est impossible. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que l'on fait suffisamment dans les entreprises, d'encourager les collaborateurs ?
On essaye, je dirais, l'intensité du quotidien, les choses s'accélèrent, vont très très vite. Dans un environnement qui est pris par les médias sociaux, par l'internet, par l'intelligence artificielle, tout va vite. Donc voilà, il faut prendre du recul. Moi, je promeux beaucoup dans la société de bring the whole self at work, c'est-à-dire venez avec votre personnalité, avec ce qui vous rend unique, parce que ce qu'on cherche dans nos sociétés, c'est finalement avoir cet équilibre et être soi-même. Et un leader, un patron, c'est un chef d'orchestre. Hein. On ne sait pas jouer toutes les partitions, tous les instruments, mais on aimerait que tous ses employés, ses collaborateurs la jouent et créent cette harmonie, cette culture d'entreprise qui permet aux collaborateurs de se surpasser. Et donc, ne pas avoir peur d'échouer. Hein. Les échecs m'ont beaucoup plus appris sur moi. Et me relever hein, m'a permis d'être encore plus forte durant ma carrière. Mais bien sûr, il ne faut pas répéter ses erreurs. Par exemple, dans la recherche, on essaie maintenant d'avoir des après-midi du vendredi ou dans le mois ou dans un trimestre pour que les collaborateurs dans la recherche peuvent faire des choses que eux-mêmes décident de faire, hein, qu'ils puissent un petit peu libérer le potentiel de l'imagination. On essaie d'avoir un mentorat. Alors, comment on le fait ? Moi, j'ai abusé du mentorat. Et mentorer, c'est une merveilleuse manière de prendre du recul, de se surpasser, d'encourager les autres. Je me fais mentorer par des plus jeunes que moi. C'est le mentorat inversé. Et j'apprécie qu'on l'utilise comme un moyen chez Science Co, mais aussi autour de moi, dans ma vie, pour être challengée par du monde autour de vous pour écouter la sagesse, d'autres opinions, une force de conviction qui veulent qu'on aille plus loin dans l'amélioration, voilà, de nos conditions de travail, de vie, et de pouvoir trouver d'être ce bonheur, hein, d'être heureux dans sa vie professionnelle autant que personnelle.
Est-ce que lorsque l'on a un profil atypique, c'est plus simple de réussir aux États-Unis qu'en Europe, par exemple?
Je ne sais pas. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez un profil atypique. Après des études, je dirais plutôt traditionnelles, hein, parce que moi, comme vous le savez, je suis née au Maroc, donc j'ai suivi une scolarité très post-coloniale. Bien que je sois dyslexique, ben, j'ai grandi dans les deux langues, arabe et française, voilà, et j'ai fait mes études jusqu'au doctorat. Mais c'est vrai que très vite, je suis allée dans le milieu anglo-saxon, qui m'a appris par rapport à un milieu, je dirais, franco-français, des grandes écoles où on apprend à, voilà, d'être des bêtes à concours, d'avaler des choses et d'être des monstres de résolution des problèmes, et avec une thèse qui vous fait que pendant 3 ans, vous avez un projet, vous êtes votre seul cavalier, votre seul ennemi, et vous délivrez un projet au bout de 3 ans. L'école anglo-saxonne m'a appris que c'est bien tout ça. Les diplômes, c'est très sympa, mais c'est de la commodité. Il y a toujours des gens plus intelligents que vous et c'est votre résumé qui compte. Basé sur la méritocratie et le travail dur. Est-ce que vous avez fait les 3 dernières années? Et ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, ça me convenait vraiment très, très bien. Et l'école anglo-saxonne m'a appris très, très vite à oublier les hiérarchies. Et puis aujourd'hui, avec l'âge, c'est de transmettre ce qu'on apprend, de continuer à apprendre, désapprendre et réapprendre. Donc, je ne sais pas, non? Il y a autant de challenges dans le milieu anglo-saxon que dans le milieu européen. C'est-à-dire, peu de femmes. On est encore des anecdotes. Ça, c'est malheureusement un problème universel. Mais bon, c'est vrai qu'on ne regardera pas votre formation. Ils ne connaissent pas notre buzzword, hein, les écoles, un petit peu les grandes écoles à la française, aux États-Unis. Pour eux, voilà, c'est très bien tout ça. Hein. Ils regardent vraiment qui vous êtes, la personnalité. Mais bon, je ne veux pas stéréotyper. Ça vient, hein, ça vient en Europe aussi. Aujourd'hui, nous cherchons des personnalités quand nous embauchons, hein, pas qu'un résumé ou un diplôme, hein, très important. En tout cas, c'est le conseil que je donne à mon fils qui a 18 ans, voilà, et que je donne aux gens que je mentore, hein. Donc, c'est très important. Et il faut apprendre tout ça. C'est un panel qu'on cherche. On ne cherche plus juste un diplôme.
J'ai quelques petites questions pour terminer. C'est des questions rapides. Ça appelle des réponses rapides aussi. On a l'impression qu'avec votre énergie, il n'y a pas grand-chose qui vous résiste. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de douter?
Ah oui, bien sûr. Hein. Je ne suis pas Wonder Woman. Hein. Je suis pas... Le doute fait partie du métier. En attendant, à croire qu'un dirigeant, il faut toujours être sûr de soi, affirmer plutôt que d'interroger. Et on refuse d'admettre qu'on a pu faire des erreurs ou avoir tort. Ça, c'est peut-être un moule que j'ai eu quand j'étais jeune, quoi. Mais avec le temps et l'expérience, et peut-être cette expérience universelle et un petit peu partout dans le monde, j'ai appris à accepter d'être en position de faiblesse, d'être vulnérable. Je parle de ma vulnérabilité, d'ailleurs, pendant la Covid. Moi, je payais pas de mine et j'ai demandé de l'aide à nos collaborateurs. Sinon, on s'en serait pas sortis. Voilà, et le doute n'est pas une vulnérabilité, c'est une force lorsqu'on l'utilise pour aller chercher des réponses, vérifier d'autres alternatives. Hein. Un doute veut dire, je vais vous poser une question, je vais vers des experts qui vont m'aider. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'immobilisme, parce qu'on doute. Hein. Donc là, c'est effectivement un problème.
Qui sont les héroïnes invisibles?
Je pense que vous faites référence à ce livre de charité que j'ai publié il y a quelques années. Mais d'abord, je vais commencer par mes propres héroïnes invisibles. C'est ma grand-mère qui m'a élevée, qui était une incroyable conteuse d'histoire. C'est de là d'où vient mon appétit pour le sujet d'ailleurs. Elle m'a tellement dit des choses qui m'ont vraiment marquée. Il y a un dicton au Maroc qui dit que les femmes n'ont que 2 voies dans leur vie, une vers la maison de leur mari et une vers la tombe. Elle m'a encouragée à trouver la 3e voie. Pour moi, ça a été l'éducation. C'est une histoire que je raconte encore et encore. Elle était tellement inspirante, mais j'ai eu d'autres héroïnes invisibles dans ma carrière et dans ma vie de petite fille et de jeune, comme Marie Curie. Voilà, un rôle modèle qui m'a tirée vers les sciences ou des grandes écrivaines, Urquhart, Virginia Woolf, une héroïne de fiction, Shahrazad, des Mille et Une Nuits. Donc voilà. D'ailleurs, donc quand je suis arrivée, et là je viens peut-être au livre de charité, quand j'ai joint le monde de l'hygiène et de la propreté, donc diversique, j'ai transformé, quand j'ai rejoint la société, on nettoyait des toilettes, Donc, il n'y avait pas beaucoup de fierté dans nos métiers et au sein de nos collaborateurs. Et quand je suis partie, on sauvait des vies. On avait compris le rôle de l'hygiène et de la propreté. Et en hommage à ma grand-mère qui était femme de ménage, on a écrit un livre avec des profils de femmes extraordinaires et un homme. Il n'y a pas que des héroïnes, il y a un héros invisible dedans et qui sont d'ailleurs des gens qui existent, qui travaillent dans l'hygiène et la propreté, qui des fois au plus bas de l'échelle et qui sont devenus des patrons, patronnes, qui ont fait fortune dans le métier, très inspirant. D'ailleurs, en hommage à ce monsieur, il était agent technicien de surface à Broadway, hein, dans un théâtre, et il chantait, et on s'est rendu compte qu'il avait une belle voix de ténor, et il s'est retrouvé sur les planches, et maintenant, il est chanteur opéra. C'est des histoires que j'aime raconter. Ce livre est un livre de charité. Je fais un peu de pub. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Ça va à des héroïnes invisibles et on aide l'éducation et on fait une cérémonie des Oscars une fois par an. C'est aux États-Unis. Et je trouve que c'est bien de porter la fierté dans tous les métiers. Je pense que la COVID et la crise, la pandémie de la COVID nous a démontré qu'en fait, les choses qu'on croyait simples pouvaient disparaître de nos vies et pouvaient nous empêcher même de s'approcher des proches, de nos proches. Et donc voilà, ça c'est bien.
Vous dites qu'aider les femmes à se hisser au sommet, c'est aussi aider leurs partenaires. Expliquez-nous.
Franchement, je suis très heureuse de ce qu'on a fait chez Solvay et Syensqo va continuer ça. C'est le congé parental. Alors on m'a demandé pourquoi vous avez mis le congé coparental d'ailleurs, hein, quel que soit pour le père, la mère, pour les coparents, quelle que soit leur orientation sexuelle. On l'a augmenté à 16 semaines. On l'a lancé en 2021. On m'a dit, ouais, mais bon, on est pères, ne veut pas prendre 16 semaines. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, la population de Solvay et Syensqo compris, je pense qu'il y a plus de 650 bébés qui profitaient de leur père pendant 16 semaines. Et pourquoi? C'est parce qu'effectivement, l'un des moments les plus difficiles de ma carrière, c'est quand je suis devenue maman. Je faisais ma carrière en Suisse avec mon époux qui avait aussi une carrière à suivre. Et c'était très compliqué pour nous de trouver une place en crèche qui était abordable. Et donc, sans famille autour de nous. Hein, donc, nous n'avions pas un tissu social développé qui puisse nous aider. Je me rappellerai toute ma vie que c'était très compliqué parce qu'à ce moment-là, moi qui suis une passionnée de mon métier, la seule fois où j'ai pensé arrêter mon métier, c'était à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de choix en fait entre votre boulot, votre job, votre carrière et votre enfant. Il n'y en a pas. Le choix est déjà fait. Et ça, c'est quelque chose, vous pouvez même l'entendre, c'est vraiment une blessure qui est restée en moi, que j'ai jamais oubliée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un tabou, il faut en parler. Il faut en parler avec nos familles, les jeunes qui veulent avoir une famille au sein de nos sociétés et leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. On peut les aider. Donc, par exemple, chez Syensqo, nous construisons des crèches où nous essayons d'avoir des places de crèches, surtout dans les quartiers généraux ou quand on a la masse critique, ou essayer, par exemple, de trouver un moyen de collaborer avec d'autres sociétés pour créer des hubs. Parce que si vous avez un parent heureux, une famille heureuse, ben vous avez un employé engagé. Et effectivement, pour que les femmes puissent continuer leur carrière sans renier et négliger ou prendre un choix qui est difficile, si elles le veulent, hein, de faire une famille, ben il faut les aider, il faut en parler, il faut qu'il n'y ait pas de tabou, il faut que leur partenaire les aide. Parce que moi, à ce moment-là, mon époux, ben, quand il a pris 2 semaines, je crois, de congé paternité, on l'a regardé un petit peu de travers en disant, vraiment, 2 semaines? Donc voilà, il faut qu'on en parle, il faut les aider. Et je pense que les sociétés comme les nôtres, le privé doit jouer son rôle, avec le public, bien sûr, avec les autorités, pour créer cet écosystème positif qui puisse aider les jeunes familles.
Qu'est-ce qu'il reste de la petite fille qui a grandi à Casablanca?
Beaucoup de choses. On a toujours un enfant en nous. Il reste beaucoup de rêves. Je suis une rêveuse. Hein. Des rêves qui sont plus grands que moi, des fois et souvent, me font peur. Parce que s'ils ne me font pas peur, ben, ils ne sont pas assez grands. Des valeurs, hein, de l'honnêteté, la méritocratie, l'impossible est possible, tout ce que cette grand-mère m'a appris, des passions, hein, donc celles que vous connaissez un peu plus, la science, la recherche, tout ce dont on parle, mais celles que vous connaissez moins, des projets plus personnels, hein, écrire par exemple, la spiritualité, voilà, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais jeune et qui maintenant devient plus importante. suis agnostique, mais je fais du yoga tous les matins. Voilà, il y a un fan qui disait un peu de science est loin de Dieu, beaucoup de science y ramène. Ce qui me reste de cette petite fille, c'est d'avoir envie de croquer le monde, d'avoir accès à cette prospérité que j'avais pas, en fait. Et aujourd'hui, peut-être, c'est la même curiosité que j'ai. J'ai envie que la petite fille que j'étais, qui était plutôt, qui a eu d'ailleurs un amour inconditionnel, hein, c'est pour ça que je suis devant vous, équipée avec de l'éducation, bah, que ça continue pour nos enfants et pouvoir réinventer les choses. Donc voilà, c'est vraiment le rêve. Il est toujours là. Il est intact.
Est-ce que vous avez commencé à écrire le livre que vous vouliez produire sur votre grand-mère?
Oui, c'est très compliqué pour une dyslexique d'écrire, parce que je dois me replonger à chaque fois dans cet espace d'écriture, mais c'est pas grave, hein. J'aime beaucoup apprendre et désapprendre des langues. Je l'écris en français parce que dans ma jeunesse, ben, j'ai suivi l'école française. Et ce qui est difficile, mais qui est intriguant et intéressant pour moi, c'est d'aller dans cet espace fictif inspiré de la réalité. Presque en halluciné, donc de trouver ce fil d'écriture qui permet de laisser des personnages vous dire les choses, même une grand-mère, parce que bon, il y a quand même, il y a l'âge, hein, il y a beaucoup d'années qui se sont passées, et on ne peut pas être fidèle aux réalités, il y a trop d'années qui se sont passées, et vous avez parlé de la psy, elle voyait les choses différemment que la femme que je suis devenue avec mon expérience d'aujourd'hui. Donc on porte peut-être un regard très différent sur sa jeunesse. Donc voilà, j'essaie d'imaginer les choses, de me replonger dedans, qui est une source de joie extraordinaire. Comme le yoga, ça me permet de m'évader de mon quotidien, mais ça me nourrit, ça m'énergise pour revenir, voilà, beaucoup plus positif, énergisé, ressourcé.
Qu'est-ce que vous diriez à la jeune stagiaire qui habitait à Besançon et qui a été travailler chez Solvay pour se payer son permis de conduire? C'est une belle histoire, parce que votre première expérience professionnelle, c'est aussi celle qui est aujourd'hui votre expérience la plus aboutie.
Oui. Oui, j'ai vendu des beignets sur la plage de Casablanca, mais c'était pas un vrai salaire. Mais c'était vraiment mon premier salaire. Ben, je lui disais, tu as bien fait d'aller à Tavaux, quoi, qui est une belle usine maintenant, qui est chez Science Co. D'ailleurs, mes collaborateurs et le patron de l'usine, il a trouvé la feuille où j'avais signé avec un crayon mon nom, hein, donc ils me l'ont offert. Ça m'a beaucoup émue, je suis émue d'ailleurs d'y penser. Et j'y suis allée, bon ben voilà, j'étais green, hein, verte, fraîche, je voulais, voilà, faire un stage pour avoir un peu d'argent, j'ai passé mon permis de conduire d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup d'ailleurs touchée, ce stage, parce que c'était dans le laboratoire des analyses des eaux. Et je suis partie franchement en me disant, waouh, quelque chose qui m'intéresserait probablement plus tard. Donc voilà, je dirais à la jeune, elle a bien fait. Je dirais à tous les employeurs et les patrons qui nous écoutent, faites attention à vos stagiaires, elles peuvent devenir votre PDG.
J'ai une dernière question pour terminer. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne dans la vie, que vous aimez bien, qui vous met de bonne humeur par exemple?
Ah, la musique, il y en a beaucoup. J'écoute beaucoup Adèle, je suis d'une génération d'Abba et de Balavoine. La chanson qui me touche et que j'aime écouter dans cette suite, c'est I Will Survive, hein, de Gloria Gaynor. Donc ça, c'est ou Allumer le feu de Johnny, voilà.
Merci aux équipes de Science Co et d'Image7 d'avoir organisé cet entretien. Merci aussi à Baptiste Dupin pour la réalisation de ce podcast et à toute l'équipe de Radio Classique qui m'accompagne depuis le début. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à noter ce podcast sur vos plateformes habituelles.